Ce son de la jungle équatoriale nous amène vers Sophie Anctil. Salut Sophie.
Bonjour Anto, bonjour RCC, bonjour La Baleine. Bienvenue dans les choix de Sambava pour cette émission de décembre. Et oui, ça y est, c'est la fin de l'année. Alors, je vais vous parler dans cette émission un peu des rituels de fin d'année. Voilà, et on va commencer avec Praful. Vous aurez plusieurs musiques de Praful pendant cette émission. C'est son dernier album qui s'appelle Selva Sagrada, donc la forêt sacrée. Alors on va continuer sur cette Selva Sagrada, donc la forêt sacrée qui est On dit que souvent l'extérieur est le reflet aussi de notre intérieur et notre intérieur se reflète à l'extérieur. Donc, de quoi, qu'est-ce qui est sacré en moi? Et c'est peut-être bien cette période de décembre, de fin d'année, de faire un peu un point sur justement les rituels et sur ce qui a du sens et ce qui est sacré en moi. Alors souvent on utilise la fin de l'année pour les bonnes résolutions. Moi j'ai envie pendant cette émission de vous emmener un petit peu plus loin, voir quelle est la graine que vous allez planter pour l'année prochaine. Alors d'abord je voudrais vous parler du 20 décembre. Le 20 décembre c'est une nuit, c'est la nuit de Diane. Et Diane à l'époque était considérée par les Vicans, donc les sorciers, comme la première mère de la sorcellerie. Et cette nuit elle lui est particulièrement consacrée parce qu'en fait elle est aussi associée à l'action, la violence et la pleine lune. Et c'est aussi la déesse de la fertilité, de la germination, de la graine et de la naissance. Donc c'est un bon moment pour planter des graines. Donc jusqu'au 20 décembre, vous pouvez penser à quelles graines vous voudriez planter. L'hiver, c'est le moment où tout est endormi et en fait on met les graines en terre pour qu'elles soient gardées au chaud par la terre mère et ensuite qu'elles puissent au printemps faire son chemin pour jaillir vers le soleil. Alors Diane, elle a aussi le rôle de protectrice de la vie féminine et elle a plusieurs noms au fur et à mesure des siècles. Elle s'est transformée en Tiamat sumérienne, ça c'était l'approche sumérienne de la déesse planète qui avait engendré la Terre. Et il y a un festival qui lui est consacré dans les pays germaniques et scandinaves sous le nom de la nuit de la mer ou de Modernach. Donc en fait on croyait que les rêves de cette nuit permettaient de prévoir les événements qui se dérouleraient dans l'année à venir. Et c'est aussi le jour où on mettait en place un arbre à feuilles persistantes symbolisant l'arbre de vie et l'axe du monde, et on le décorait d'étoiles, de petits cadeaux et de bougies. Donc c'est ce qu'on pratique encore aujourd'hui de nos jours à Noël sous la forme du sapin de Noël. Donc cet arbre a été choisi car il avait la réputation de protéger des orages, d'écarter les démons, bref de protéger de la guigne et de tous les problèmes. Alors il y a aussi une autre... Diane, c'est aussi Lilith, hein, la première compagne d'Adam, qui était donc une déesse sumérienne. Et Inanna était aussi une déesse vénusienne qui aussi l'équivalent de Lilith et qui a progressivement disparu aujourd'hui. Alors Lilith, ce qui est intéressant, moi j'aime bien, je suis assez féministe hein, quelque part, donc j'aime bien quand les choses bousculent. Donc on dit qu'elle a été créée en même temps qu'Adam, de la même poussière, et que Lilith refusa d'être la servante d'Adam, son inférieur, puisqu'elle était née de la même terre. Et Adam vient du terme Adama, qui veut dire la terre rouge. Et c'est la raison qui a fait que l'on a transformé le mythe de naissance d'Ève en la retirant de la côte d'Adam, pour faire admettre l'infériorité de la femme. Donc quand on sait qu'il a fallu attendre le XVIIe siècle pour que l'Église catholique reconnaisse que la femme est une âme, c'est pas si vieux hein, le XVIIe siècle, on est qu'au XXIe, hein, donc voilà, je vous rappelle un petit peu l'histoire aujourd'hui. Et du coup reconnaissent que la femme avait une âme et donc qu'elle avait le droit à la rédemption. On comprend mieux aujourd'hui le machisme de certains pères de l'Église et des bûchers à l'époque. Hein, donc la femme n'avait pas d'âme, on pouvait la brûler. Donc c'est aussi la personnification de la sexualité libre. Donc Lilith, elle se brouille avec ce qu'on appelle le patron, Dieu, hein, du jardin d'ADN ou d'Éden. Voilà. Lorsqu'il exigea de chevaucher Adam durant l'union sexuelle pour ne pas se trouver en position d'infériorité. Et à ce moment-là, elle prononce le nom de Dieu, du patron, et réclame des ailes pour s'envoler loin de l'Éden et aller vivre en liberté dans une grotte au bord de la mer. Donc c'est aussi l'image de la lune noire. Quand on connaît un peu l'astrologie, dans un thème astral, on a la lune noire. Et la lune noire, c'est un point fictif dans le ciel astrologique et qui symbolise aussi toutes les ombres, tout ce qui exerce le manque de nos existences, ce manque qui nous fait espérer agir. Donc ça représente les ombres dont on a besoin de prendre conscience pour pouvoir rentrer dans l'action et dans la liberté. Alors, cette lune noire, elle incarne la solitude vertigineuse, le vide absolu qui n'est autre que le plein par la densité. Donc cette force immatérielle, c'est aussi la tache aveugle, auréolée de flammes noires qui anéantissent le lieu où elle gravite. Mais elle peut cependant transfigurer la maison astrologique où elle se trouve, dans le thème natal. Donc ça, c'est pour aller vers un don absolu de soi ou la sublimation. Et j'ai envie de rajouter, qu'y a-t-il derrière un trou noir ? Ben, un autre univers, une autre vie. Donc c'est vraiment l'idée de la transformation. Alors on va continuer avec une chanson celtique, avec des voix féminines magnifiques. Ces femmes celtiques, c'est beau aussi ces traditions celtes. Alors moi j'ai une partie de mon héritage hein, qui vient des Vikings, donc voilà, ça me parle aussi dans mes cellules. Alors après le 20 décembre, qu'est-ce qu'on a ? Bah on a le solstice d'hiver avec le 21 décembre, donc c'est la nuit la plus longue de l'année. Et ce solstice d'hiver, il est marqué par la célébration de Yule. Alors l'étymologie du mot solstice est un et arrêt ou pause du soleil. Donc c'est Yule, au solstice d'hiver, est une fête du feu, de la lumière, de la fécondité et des morts, au milieu d'une nature plongée dans l'obscurité. Donc c'est vraiment le moment où hop, le soleil bascule de l'autre côté, et du coup on va aller vers les jours qui se rallongent. Donc le nom de Yule, il est dérivé du mot roux, et il est lié au cycle solaire. Donc Yule constitue un vestige de rituel primitif célébré pour hâter la fin de l'hiver et la fécondité du printemps. Il est placé sous le signe du gui. Et à l'époque, on célébrait l'adieu à la vieille mère, symbole de l'hiver, pour accueillir ce qu'on appelait les dieux à cornes, donc tout ce qui était cornu, qui est symbole du printemps et de la fécondité. donc il y avait Pan, etc. Et c'est aussi à cette date que l'on pratique le rite de la bûche de Yule. Alors on l'utilise en fait une vraie bûche, en hêtre, en orneau ou en chêne, qu'on choisit en général à l'équinoxe d'automne, et on la conserve précieusement pour la date du 21 décembre. Et les gens de la maison la décorent de façon à placer sous son écorce des souhaits, des vœux pour l'année qui vient. Donc il faut s'occuper du feu avec les doigts ou des bâtons en bois, sans jamais utiliser un instrument en fer, car cela risque de se répéter dans la vie et que du coup on pourrait se blesser. Donc on n'utilisait pas le fer parce que sinon ça veut dire qu'on peut se couper, avoir la gangrène ou quelque chose d'invalidant. Et donc la bûche, elle doit se consommer toute la nuit. Et aussi, on peut aussi bien sûr placer des petites bûches, autant de petites bûches en dessous que d'habitants dans la maison pour que chacun ait sa part de chance. Donc on conserve le charbon de la bûche et ils avaient la réputation de servir pour guérir des maladies et protéger la maison. Donc en fait on utilisait les cendres dans le grenier pour éloigner les souris ou alors répandre au pied des arbres fruitiers pour fertiliser la terre. Alors pour les druides, le solstice d'hiver marque aussi le triomphe de la lumière sur les ténèbres. Donc c'est le temps de la renaissance après la mort. C'est dans le silence de la terre endormie que les graines commencent à germer. Donc c'est là où ça commence à bouger et donc répondant à l'appel de la vie. Donc comme toute graine qui ne trouve son énergie qu'au centre d'elle-même, c'est le moment d'aller au centre de vous-même et c'est au plus profond de chacun qu'il faut chercher la force et la lumière. Donc c'est cette bûche qu'on a à table à Noël, bah ça vient de Yule en fait. C'est la tradition, elle s'est transformée, on a oublié vraiment d'où venait l'origine, mais cette origine elle vient non pas du 24 décembre mais du 21 de ce solstice. Et les druides aussi, ils coupaient le gui parce que le gui a beaucoup de vertus. Et quand ils le coupaient avec la fleur de la plante de la lune. Parce qu'en fait, ça rappelle, c'est une plante qui est associée au solstice d'hiver, mais qui est sacrée pour les druides, qui le coupaient avec une serpe dorée, donc qui avait la forme d'une lune. Et c'était pas du tout en or. Et cette plante, on l'utilise aussi comme terme cyclique de l'année et de son renouvellement. Donc les petites boules blanches montrent l'aspect lunaire, c'est pourquoi le gui était coupé avec des feuilles illustrant elles-mêmes le croissant de lune, et dont la couleur or rappelle le soleil par complémentarité. Donc le gui, c'est l'image de la quintessence, il recèle des principes de la lune et du chêne, de telle manière que de plante parasite, il devient l'émanation supérieure de l'arbre dans laquelle il se trouve. Donc souvent, voilà, c'est des plantes qui sont parasites du chêne, mais du coup, ils prennent le meilleur puisqu'ils s'élèvent en fait vers le haut et donc ils prennent les énergies aussi du ciel. Donc voilà, il y a plein de festins à l'époque qui étaient utilisés. On mettait le gui sur la table et on plaçait aussi une cruche en terre qui était entourée de cordelettes de chanvre. Et dans ces cordelettes, on mettait de l'eau et on mettait des grains de blé qui du coup germaient et ça recouvrait la cruche. Donc c'était voilà pour la symbolique de la germination qui arrive au printemps. Alors, on va continuer sur une chanson encore celtique qui s'appelle Yule, justement. Et je vous invite juste à laisser mes mots se déposer en vous et voir si ça vous parle aussi, ces traditions ancestrales et païennes.
Enter the night and you'll find.
La nuit la plus sombre, mais c'est du coup comment je peux trouver la lumière à l'intérieur de moi, c'est-à-dire quand l'obscurité est tout autour, ça me permet de pouvoir plonger plus profondément en moi pour trouver ma propre lumière, celle qu'on oublie, qu'on a tout le temps au fond de nous, où on est tous reliés dans cette même lumière. Alors toujours dans la tradition Vika, en fait, il est coutume de dresser l'arbre de Yule. Donc l'arbre, en fait, ça peut être juste un bâton ou une grande branche coupée ou un arbre en pot que l'on plante plus tard. Alors moi, c'est vrai que j'aime bien aujourd'hui aller récupérer dans la nature ce qui est tombé naturellement, de pas couper un arbre pour juste une fête de Noël d'un sapin dont après on va balancer à la poubelle. Je trouve que justement de respecter la nature, elle est tellement généreuse en plus ici. On a des forêts autour de nous, on peut aller se faire une balade en forêt bien couvert et puis trouver voilà un arbre, une branche d'arbre tombée ou un arbre tombé. Donc tout est là quoi, de sortir un peu de ces modélisations qu'on a consoméristes en fait. Alors dommage pour ceux qui fabriquent des sapins de Noël, mais j'ai envie de dire voilà qu'est-ce qui vous parle dans ça? Est-ce que vous avez envie de continuer à alimenter quelque chose dans le consumérisme, dans ce qu'on vit, dans ce qu'on nous a appris, ou de tout d'un coup regarder en vous ce qui est juste pour vous et de dire mais il y a cette nature qui est là, abondante autour de moi, dont je peux profiter et qui me donne ce dont j'ai besoin. Donc en général on le décore avec des fabrications maison, donc ça c'est bien parce qu'il fait froid, donc vous pouvez rester chez vous puis fabriquer des guirlandes de boutons de rose séchés ou de bâtons de cannelle avec des cristaux de quartz entourés de fils, mettre des sucres candis, voilà toutes des petites choses qu'on peut faire soi-même, des petits gâteaux secs qu'on fait maison, si vous avez le Thermomix c'est plus facile au passage. Ouais, bref, tout ce qui représente aussi, en ce moment, on a les agrumes, donc les pommes, les citrons, les oranges, qui peuvent en plus, du coup, être mangées après les cérémonies. Donc ça, c'est chouette. Et donc d'ajouter à profusion tout ce qui représente la lune. Donc on peut faire des petits gâteaux en forme de lune, ou couper des petites écorces de bois en forme de lune, ou en carton qu'on peint avec de l'argent et de l'or. Enfin, ça peut être chouette aussi, dimanche après-midi, de faire ça avec les enfants, s'ils sont petits, ou les petits-enfants. Et puis, bien sûr, bah voilà, les gâteaux secs, toujours face du nez en forme de lune, d'étoile ou de cœur. Et puis les noix aussi, les noix, les fruits, les pommes, les poires, voilà, tout ce qui est, tous ces aliments qui sont de circonstance. Alors pour les chamanes, c'est intéressant aussi de voir ce qui se passe pour les chamanes. Il disait que la froideur de l'hiver, elle apporte la sagesse des réflexions, la maturité et de l'intégration des acquis. Donc c'est vraiment un moment pour qu'est-ce que j'ai vécu dans cette année, qu'est-ce qui est là en moi, et du coup de laisser mûrir ce qui est là, et de pouvoir regarder ce qu'on a acquis. Qu'est-ce que cette année m'a apporté, qu'est-ce que j'ai appris sur moi-même, qu'est-ce que j'ai appris de moi-même, et de pas être encore vers l'extérieur, mais de retourner à l'intérieur. C'est le moment aussi de décompréhension, souvent en fait, quand on a des ce qu'on appelle une quête de connaissance, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai compris de ce travail que j'ai fait, ou de ce que ça m'a apporté. Donc c'est vraiment un bon moment pour faire le point. Et les énergies de l'hiver, elles sont lentes, lourdes, et donc elles incitent aussi à la pacification mentale, à la méditation, et aussi au regard porté sur tout ce qui est résignation, sur le doute et sur le désespoir. Donc il faut pas avoir peur de ça. C'est des sensations, des émotions que l'on a, et c'est pas parce qu'on dit qu'elles sont positives et négatives, mais en fait il y a rien de positif ou de négatif, parce que finalement tout est un centre, et dans ce centre, par exemple, la colère peut être magnifique, parce que la colère, elle peut nous apporter beaucoup d'énergie, elle nous fait avoir chaud aux joues, elle nous permet aussi d'avancer, ça donne beaucoup d'élan. Et des fois, derrière la tristesse, bah on peut découvrir un besoin qu'on n'a pas nourri, et du coup de comprendre pourquoi elle est là, cette tristesse, découvrir le besoin qui est lié à cette tristesse, et du coup répondre aujourd'hui à ce besoin pour ne plus justement avoir la tristesse. Et du coup le doute et le désespoir et la résignation vont avec ça. Donc les rituels d'hiver, ils marquent la reconnaissance des esprits du vent froid et des esprits du monde souterrain. Donc du coup ça, c'est un soutien en fait que vous pouvez demander à la terre, même de vos ancêtres, pour pouvoir intégrer et poser ce regard intérieur en vous. Donc c'est une période idéale pour faire le point aussi sur un processus thérapeutique et spirituel. Et par rapport à ça, il y a une formation que j'amène en Corse qui s'appelle le Corse Show, qu'on en avait parlé dans une émission précédente. Et le formateur qui vient de Belgique sera là du 11 au 17 décembre. Donc c'est une formation qui se fait à Calenzane. Et justement, c'est un travail sur les besoins, les émotions, et de libérer dans le corps, dans les fascias, l'énergie qui a été coincé ou qui ne circule pas ou qui a été bloqué dans nos tissus. Donc c'est à la fois libéré sur le plan psychologique, mais libéré aussi sur le plan émotionnel et libéré sur le plan corporel. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder sur Ouzofiu pour avoir les infos, ou m'appeler en direct.
Star of wonder, star of light, star with all your beauty bright.
Alors, merci, ça c'est les The Three Witches, c'est les trois sorcières, donc nous emmener sur son balai. C'est ma sorcière bien-aimée plutôt que... Parce que la sorcière, en fait, en espagnol, on dit bruja ou brujos, et c'est vraiment... Il n'y a pas ce côté péjoratif qu'on a, en fait, en Europe, de la sorcière qu'on voit toujours comme quelqu'un de vilain, alors qu'en fait, c'est quelqu'un qui soigne, en général. Alors, bien sûr, il y a magie blanche et magie noire, hein, mais en fait, au départ, la sorcière, c'est celle qui connaît les plantes et qui fait, du coup, du bien... aux autres grâce à ses connaissances. Alors on va vous parler maintenant du 25 décembre. Alors c'est ce qu'on appelle le début des 12 jours païens. Alors c'est à partir de cette date qu'on compte les 12 jours qui différencient le calendrier lunaire d'une année de 354 jours, composé de 12 ou 13 lunaisons, et le calendrier solaire qui fait 365 jours, 24-22, bref. C'est pour ça qu'on a tous les 4 ans un jour en moins ou en plus, non un jour en plus, pardon. Donc il correspond au temps pendant lequel la Terre décrit une révolution et revient ainsi à son point de départ. Donc ces 12 jours, entre le 25 décembre et le 6 janvier, c'est ces 12 jours qui raccordent en fait les deux calendriers, et ils sont suspendus entre deux modes de mesure de temps. Alors il est dit qu'en général, chaque jour va donner selon le temps qu'il fait pendant ces 12 jours, ça vous donnera le temps des 12 mois de l'année. Et ça marche à 90%. Donc si vous regardez à partir du 25 décembre quel temps il fait, bah vous aurez l'idée du mois de janvier, et puis le 26 du mois de février, et puis le 27 du mois de mars. Et comme ça, quand il gèle, bah c'est souvent là où on voit que par exemple en avril, bah ça correspondait aux dates où il y avait des gelées avec les seins de glace. Donc c'est toujours intéressant. Les anciens avaient l'habitude de regarder ça. Donc dans le nombre 12 aussi, ça a beaucoup de poids au niveau de la numérologie. Donc c'est un nombre qui est d'une grande richesse et qui dans la symbolique chrétienne, c'est la combinaison du 4 du monde spatial et du 3 du temps sacré, mesurant la création, recréation. Donc qui donne le chiffre 4 x 3 et qui est le monde achevé. Donc dans un sens plus mystique, le 3 est rapporté à la Trinité et le 4 à la création. Mais le symbolisme du 12 reste le même, c'est un accomplissement du créé terrestre par assomption dans l'incré divin. Bon, c'est un peu complexe, mais voilà, c'est toujours pour ceux qui s'intéressent en numérologie, vous pouvez regarder, il y a des écrivains bibliques qui disaient que 12 était le nombre du peuple de Dieu, de l'Église. L'arbre de vie porte 12 fruits, les prêtres 12 joyeux. Donc on retrouve cette symbolique dans beaucoup de traditions. Alors on va continuer avec Praful, parce que en fait toute cette tradition, qu'est-ce qu'elles ont, que vous soyez de quelque horizon que ce soit, elles ont quand même quelque chose qui nous met en commun, qui met en commun quoi, bah l'humain, qui nous rassemble autour d'une fête, qu'elle soit chrétienne, qu'elle soit païenne, c'est un rassemblement d'âmes. Et dans cet rassemblement d'âmes, j'ai envie de vous partager une chanson de Praful, encore toujours de son dernier album, qui s'appelle La danse de la tribu. Donc laissez-vous danser dans cette tribu humaine que nous sommes tous et dont nous faisons tous partie. Alors je vais continuer avec un petit peu de mathématiques parce que quand même cette symbolique du nombre 12, elle est importante puisque c'est aussi les 12 apôtres. Alors je vais citer Paul Claudel qui a dit qu'en fait ce chiffre, ça faisait 144, c'était 12 fois 12. Et donc 12 qui est 3 multiples par 4, le carré multiple par le triangle, c'est la racine de la sphère, c'est le chiffre de la perfection. 12 fois 12, c'est la perfection multipliée par elle-même, la perfection au cube, la plénitude qui exclut toute autre chose qu'elle-même, le paradis géométrique. Donc ça, c'est Paul Claudel. Alors, dans les traditions pour les Dogons et les Bambara du Mali, en fait, c'est les principes contraires 4 et 3, femelle et mâle, qui sont la base de toute chose et donc qui peuvent s'associer de deux façons, l'une statique, l'autre dynamique, desquelles dépendent les valeurs du nombre 7, comme par hasard on a 7 chakras dans notre corps, dont le cœur est le milieu, donc c'est le 4, et du nombre 12. Donc si 7, 4 plus 3 est le principe de l'homme et de l'univers, 12, 4 fois 3 et 3 est le symbole du devenir humain et du développement perpétuel de l'univers. Alors il y a aussi une vibration sonore, vous savez qu'on est, on fonctionne tous avec des vibrations et des ondes, qu'elles soient scalaires, qu'elles soient électromagnétiques, et donc c'est la vibration sonore qui préside à la genèse, selon la pensée africaine, en formant l'œuf cosmique avant la séparation de la terre et du ciel et la naissance des grands démiurges organisateurs de la création, commence par définir les 4 points cardinaux, et sur chacun, elle exécute 3 giration en spirale. Donc en fait, c'est 4 points cardinaux, 3 spirales qui se mettent sur chacun de ces points cardinaux. Et c'est aussi le complexe espace-temps qui définit à l'origine par ce mariage du 3 et du 4 et qui donne le 12, nombre d'actions. Donc ce qui est intéressant, c'est que dans notre corps, on a aussi ces 7 chakras principaux. Et chaque chakra, en fait, ça signifie en sanskrit une roue. Et elle tourne dans un sens ou dans un autre, selon, en forme de spirale. C'est comme une petite spirale qui rentre en fait à l'intérieur de nous. Et ces chakras, ils servent quoi ? Ils servent à aspirer en fait l'énergie de l'extérieur vers l'intérieur. Donc à venir nourrir aussi à l'intérieur notre énergie, notre feu, nos cellules par les ondes et les vibrations de ce qui nous entoure. Donc parfois si vous êtes dans une ambiance où la personne elle est tout le temps déprimée, elle est tout le temps pas bien, bah vous sentez pas bien parce que vous absorbez aussi ce qui émane de l'extérieur. Donc en définitive, le 12 est toujours le nombre d'un accomplissement et d'un chiffre achevé. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi 12 mois de l'année. Et dans le tarot, la lame du pendu, c'est le 12, marque la fin d'un cycle involutif. Et par celle ensuite qui suit, c'est celle de la mort, le 13, qu'il faut prendre dans le sens de la renaissance. Donc dans les anciens rites, il est conseillé durant 12 jours, donc ces 12 jours qui suivent le 25 décembre, d'aller chercher de l'eau dans les fontaines sacrées, parce que ils sont pas à ce moment-là, ils sont vraiment dans leur énergie pure, ils n'ont pas été christianisés. Alors c'est pas que je suis contre le christianisme, hein, loin de là, mais du coup ça permet à ces eaux qui n'ont plus été baptisées durant cette période de retrouver leur pouvoir antique, donc de se reconnecter à la source, à l'origine. Et du coup ces eaux, ils peuvent servir dans de nombreuses occasions et pour purifier par exemple des lieux d'habitation, vous pouvez les boire, etc. Et il y a aussi donc cette tradition dont je vous ai parlé de regarder ces 12 jours, le matin et le midi, de regarder le temps qu'il fait durant cette période et qui correspond au temps qu'on aura durant toute l'année à venir. Et donc il y a des personnes qui l'ont vérifié, je vous dis ça marche. Alors avec tout ça, je vais vous passer maintenant une chanson de Red Fulka, qui est aussi un ami de Praful et qui s'appelle Let Yourself Fall. Donc laisse-toi tomber, laisse-toi aller, laisse-toi, comment on dit, surrender en anglais, t'abandonner. Alors, pour continuer un peu dans ces calendriers païens et ces traditions païennes, le 1er janvier, c'est le jour d'Isis. Alors, Isis, c'était une grande déesse de l'Égypte, hein, et elle fut longtemps représentée comme sur notre sol, amenée par les voyageurs grecs et romains, respectueuse dans son culte. Donc, c'est celle qui a, vous savez, ses grandes ailes noires ou blanches derrière. Et donc, on dit aussi souvent qu'elle est, elle a les temples qui furent élevés en l'honneur d'Isis, c'est en l'honneur de la mère du monde dans la plupart des cités d'Europe. Donc, il y a un grand nombre de temples qui lui sont dédiés. Alors, moi, je suis en train de lire en ce moment un livre qui s'appelle « Le Code Sophia », qui est une déprogrammation de beaucoup de choses, en fait, dans nos croyances. Donc, il y a des parties que on doit lire, parce que ça fonctionne comme un ordinateur. Hein. On déprogramme notre ADN carbone. Donc, carbone, ça veut dire ancré dans la matière. Et on va activer notre ADN lumière, qui est celui qui est en lien avec notre moi supérieur, pour être vraiment connecté à ce qu'est la lumière et les êtres ascensionnés. Alors, les êtres ascensionnés, du coup, il y a Isis dedans. Et c'est amusant parce que hier, justement, je me suis reprogrammer ou déprogrammer, je ne sais pas dans quel sens le prendre, peut-être dans les deux, avec justement Isis. Donc c'était assez puissant, j'avoue, je sens que ça fait un bon travail. Et donc elle symbolise aussi la déesse au foyer par sa fidélité et son dévouement. Et on dit aussi que chaque être vivant est une goutte du sang d'Isis. Donc ça, c'est ce que disaient Jean Chevalier et Alain Guébran dans le Dictionnaire des symboles. Et elle dit, en fait, c'est la déesse suprême et universelle, donc elle dit « Je suis la mère et la nature tout entière, maîtresse de tous les éléments, origine et principe des siècles, divinité suprême, reine des mânes, première entre les habitants du ciel. » Et elle a aussi, la femme, elle a perdu son fils, hein, donc ça a été la première représentation de la mère aussi, comme Marie l'est. Donc Marie, de toute façon, on dit qu'elle vient des temples d'Isis, hein, elles étaient des prêtresses d'Isis, que ça soit Marie ou Marie-Madeleine. Donc elles sont liées, en fait, à cette déesse et sous différentes formes féminines. Et donc je cherche ce qu'il disait exactement. Il y a aussi l'Ankh qui est la croix égyptienne, qui est aussi la représentation d'Isis. Et elle est donc cette femme qui est en nous toutes, hein. Donc je suis assez fascinée par toutes ces traditions aussi égyptiennes. Je connais pas bien, hein, je suis pas vraiment une pro de ça, mais je trouve que c'est cet âge d'or, en fait, qu'ils ont vécu en Égypte autour du Nil, me fascine, voilà. Et je pense qu'aujourd'hui on est à l'aube d'un nouvel âge d'or et que on est chacun le maître de nous-mêmes pour aller vers cet âge d'or. Donc chercher en nous qu'est-ce qui peut justement briller dans cette lumière? Quelles sont nos intentions pour cette nouvelle année? Et planter, enfin, année, je dis au pluriel, parce que elle vaut pour cette année, mais ça vaut aussi pour qu'est-ce qu'on plante dans les années à venir. Et comment on veut que ce monde se vive? Est-ce qu'on le veut à travers un écran, la répression et des choses de consommation, ou est-ce qu'on veut retourner vraiment dans notre état originel d'être souverain, être souverain de ce qu'il y a en nous, mais aussi autour de nous et en lien avec la nature. Voilà, donc on va continuer avec cette musique que j'aime beaucoup, Kana, la nature justement, et c'est en français.
La nature, c'est Cana sur RCC avec Sophie Anctil qui nous l'a choisi. C'est l'avant-dernier titre de l'émission.
Ouais, c'est donc dans les choix de Sambava. Donc voilà, pour terminer cette année avec la nature et bien sûr nos bonnes résolutions. Donc je vous invite à regarder aussi sur mon site ouzofiu.com. Voilà, tout ce qui est proposé dans l'association. Il y a quelque chose en Corse. Hein, j'essaye quand même de garder des formations et des stages en Corse. Il y a aussi les séances de thérapie sur terre ou en eau chaude. Ou juste de bien-être, voilà, comme vous en avez envie. Puis après, il y a plein d'autres choses qui sont un peu partout, en Italie, en Belgique, en France et ailleurs. Voilà. Et puis, bah, pour revenir à cette nature, donc voilà, profitez, voilà, de ce moment pour vous connecter à l'intérieur de vous-même, à votre propre nature, en lien avec ce qui se passe à l'extérieur. Et puis, mettez du mouvement aussi dans ce corps, on en a besoin. Donc, on va terminer avec une musique d'Ecstatic Dance. Donc l'Ecstatic Dance, le principe, c'est de laisser vraiment la musique rentrer en vous, de vous laisser sentir le rythme et de laisser votre corps bouger comme il en a envie. Donc vous n'êtes pas en discothèque ou dans une représentation sur une piste de danse, non, vous êtes juste pour être avec vous-même et de laisser le mouvement spontané émerger de votre intérieur, du son que vous recevez à l'extérieur vers l'intérieur et de l'intérieur laisser le mouvement émerger de lui-même de nouveau vers l'extérieur. Donc voilà, faites-vous du bien, étirez-vous, stretchez-vous, prenez plaisir et puis emmenez cette essence de l'Ecstatic Dance dans tous les moments où vous allez danser pour cette fin d'année. Voilà, à très bientôt, à l'année prochaine.
Merci Sophie.